voudrais quand même vous remercier parce que j'ai pu me plonger et découvrir des univers sociaux extrêmement différents entre les agents de la sécurité privée, les travailleuses domestiques philippines, indonésiennes et les adjoints administratifs des collectivités territoriales. C'était assez dépaysant. Alors, en dépit de cette hétérogénéité, j'ai pris le parti de plutôt essayer de tirer des fils communs autour de cette question des opérations de recrutement. Donc des fils communs qui vont m'amener ensuite à développer une série de questions aussi communes. Donc je ne rentrerai pas dans chacun des textes, même si je les ai lus attentivement, pour essayer plutôt de centrer mon propos sur des questions un petit peu plus générales et permettant des passerelles entre les différents textes. Alors, dans les trois textes, on voit bien comment les modalités de recrutement et les critères mobilisés par les recruteurs s'inscrivent donc dans des rapports sociaux de sexe, de classe, de race. On voit que les critères mobilisés relèvent des représentations que les recruteurs ont des caractéristiques optimales que les salariés ou les agents doivent détenir pour réaliser un travail de qualité à leurs yeux. Or, ces caractéristiques, vous le montrez, ne relèvent pas tant de compétences professionnelles, d'expérience professionnelle, que de critères discriminants correspondant à des assignations raciales, genrées, sociales. Alors, juste donc pour tirer quelques fils, pour les travailleuses domestiques philippines et indonésiennes, vous montrez que donc les qualités recherchées sont l'endurance physique, la patience, la politesse, le dévouement au travail, la servitude, la docilité. Pour trouver ces qualités chez les candidats, justement, on va mobiliser des critères qui relèvent alors, par exemple, donc de l'origine rurale, conçue comme un gage de haute productivité, comme un gage de docilité. Avec des représentations en plus associées aux régions. Autre critère mobilisé, l'âge, gage de bonne santé, de docilité aussi pour les plus jeunes. On ne retrouve que pas au-delà de 40 ans. Autre critère aussi, le physique. Vous avez expliqué tout à l'heure donc que la beauté doit être atténuée pour ne pas constituer une menace donc pour le potentiel employeuse. Du côté des agents de sécurité privée, on voit bien aussi que les fonctions sécuritaires restent associées donc au masculin, d'où une marginalisation des femmes dans le métier et des formes de ségrégation horizontale et verticale, et donc qui vont donner lieu à une affectation prioritaire d'hommes racisés au poste de vigile de par la proximité avec les caractéristiques supposées donc des populations surveillées. Proximité culturelle, qui serait en fait conçue comme un gage d'efficacité. Enfin, pour les adjoints administratifs dans une collectivité territoriale, on retrouve donc cette logique aussi de recherche d'adéquation des profils des prestataires de services avec les profils des destinataires du service. Donc, à nouveau, une proximité là, des deux acteurs qui serait source d'efficacité, permettant d'assurer une relation de service de qualité. Alors de là, je résume évidemment, je simplifie énormément, vous m'excuserez. Et donc, à partir de là, donc ces constats m'amènent à dégager plusieurs blocs de questions, quatre. Alors, un premier bloc de questions. Alors, donc on voit dans ces trois cas comment les critères de recrutement mobilisés se trouvent donc intriqués dans des rapports sociaux de sexe, de classe, de race. Alors, ce qu'on voit, c'est que les métiers de service se révèlent comme une entrée particulièrement pertinente pour mettre en évidence cette intrication. On peut considérer les métiers de service comme un cas emblématique ou un cas limite, je sais pas, permettant une sorte de montée en généralité. En même temps, ces métiers de service présentent une spécificité, en l'occurrence, pour reprendre le terme d'Isabelle Ferreras, la mise en présence d'autrui. Et notamment cette mise en présence d'autrui tend à renforcer cette intrication et ses effets. Et notamment, j'avais des questionnements autour de justement ce renforcement, cette spécificité des métiers de service. C'est que cette mise en présence d'autrui, elle renforce cette intrication, ses effets, et en même temps les justifie la mobilisation de ces critères. au nom de la qualité du service, à cause des destinataires du service. C'est-à-dire qu'on va mobiliser, ce que vous montrez, c'est qu'on va mobiliser des critères qui, dans une autre configuration que les métiers de service, seraient considérés comme discriminants. Mais ici, le caractère discriminant apparaît presque, donc se trouve en même temps renforcé et en même temps justifié, voire invisibilisé. En tout cas, justifié, parce que finalement, non, c'est pas moi, c'est le client. Non, c'est pas moi qui suis raciste, c'est le client. C'est pas moi qui veux des Gaulois, c'est le client. Donc, voilà, j'aimerais bien, voilà, peut-être discuter autour de cette question de spécificité de ces métiers de service qui permettent de mettre en évidence à la fois des mouvements un peu contradictoires de renforcement de ces critères et en même temps de justification de ceci. Deuxième bloc, à propos des compétences reconnues ou pas. Alors ça renvoie au travail du CAIRD, ce qui a été évoqué ce matin notamment par Elena Hirata, avec donc cette question de l'invisibilisation des compétences professionnelles dans les métiers du CAIRD, de invisibilisation et absence de reconnaissance qui se traduisent notamment, comme ça a été tout à l'heure décrit par Elena Hirata, par de faibles rémunérations. Ici, on voit que la mobilisation de ces critères s'opère au détriment de compétences professionnelles, au détriment de la reconnaissance de compétences professionnelles. La question que je me posais, c'était du point de vue de la temporalité. C'est-à-dire que est-ce que la mobilisation de ces différents critères, est-ce qu'elle intervient toujours autant tout au long de la carrière? Est-ce qu'ils ne sont pas particulièrement prégnants en début de carrière, au moment de l'insertion professionnelle? Est-ce que ces critères, donc consistant des assignations genrées, raciales, sociales, est-ce qu'elles ne sont pas davantage mobilisées en début de carrière et peut-être moins, j'en sais rien, en milieu, fin de carrière, ou peut-être que là, à ce moment-là, les compétences professionnelles sont davantage reconnues. Voilà, j'invite juste à questionner un petit peu cette perspective un peu longitudinale. Autre bloc de questions, autour de l'articulation entre l'action menée par les recruteurs et celle menée par les salariés ou les agents. C'est-à-dire que comment s'imbriquer les deux, comment s'articuler deux? Est-ce que l'action des uns a des effets sur celle des autres? Inversement, est-ce qu'elle l'action des uns est-ce qu'elle se renforce entre elles? Est-ce qu'elles entrent en contradiction? Par exemple, qui candidate, qui ne candidate pas, pourquoi? On le voit, l'absence de candidature féminine dans les métiers de la sécurité viennent en même temps, en tout cas leur faible nombre, vient en même temps renforcer les stéréotypes de genre associés aux fonctions sécuritaires. Autre cas, dans le cas des travailleuses domestiques, on recrute prioritairement les femmes de certaines régions pour leur prétendue donc docilité. Dans le même temps, on peut supposer que ces femmes cherchent des emplois et vont utiliser en même temps cette réputation, voire mobiliser ces réseaux pour valoriser ces soi-disant compétences régionales et obtenir ces postes. Donc comment s'articulent un peu ces deux actions, en fait, opération de recrutement et en même temps qui candidate comment est-ce que ça s'articule ensemble? Et un dernier qui en découle en quelque sorte, c'est autour des dynamiques, c'est-à-dire est-ce que ces critères évoluent au cours du temps? Et justement, bah, ça peut être sous quels effets les destinataires des services, notamment, qui changent peut-être de critères ou qui peut-être agissent, j'en sais rien, est-ce qu'ils ont des possibilités d'agir sur les représentations des recruteurs? Est-ce que ça peut être du fait des échecs de ces représentations? On suppose qu'une supposée adéquation entre certains profils, en fait, ne fonctionne pas du tout sur le terrain, donc ça va permettre d'avancer sur ces représentations. Des évolutions juridiques, les transformations du métier aussi, c'est-à-dire que tous les métiers que vous présentez peuvent évoluer aussi, peuvent se transformer et à partir de là, bousculer aussi ces représentations et ces critères de recrutement. Voilà, en gros, mes blocs un petit peu. Merci beaucoup.
J'étais vite. On vous laisse répondre en quelques phrases à plein de grandes questions pour prendre après quelques questions dans la salle. Qui commence? Qui se lance? Allez, on fait dans l'ordre.
Alors. Ben merci beaucoup déjà pour l'analyse. Effectivement, c'était trois terrains complètement exotiques, donc ça devait être dur de tirer des éléments communs. Je ne pourrais pas répondre aux quatre blocs de questions, parce que j'en suis pas encore là dans les enquêtes. Sur la première, effectivement, la spécificité des métiers de service, notamment la mise en présence d'autrui qui fait que les recruteurs supposent que les usagers ou les clients vont partager certaines représentations, et donc ils se conforment plus ou moins à ces représentations pour activer des critères discriminants. Pas sur les usagers des collectivités territoriales, mais sur le recrutement des commerciaux dans les entreprises de la grande distribution. On a fait une étude qui est encore en cours d'analyse sur les représentations des clients, où ils devaient, on a interrogé plus de 1000 clients en leur posant des questions sur s'ils devaient décrire en un mot l'hôte d'accueil qu'ils ont croisé, s'ils devaient qualifier, s'ils devaient dire les qualités d'un bon vendeur, les qualités d'une bonne hôtesse de caisse, etc. Et donc, par tout ce jeu de questions, on s'aperçoit qu'il y a moins de 14, enfin, je crois que c'est 13 et quelques pourcents de clients qui sont capables de décrire les commerciaux croisés dans l'entreprise, même ceux avec qui ils ont eu un contact, moins de 10 accordent une importance à l'apparence physique, et là on avait décliné le poids, la taille, la tenue vestimentaire, etc. Et en fait, 20% des clients préfèrent, mais vraiment de l'ordre de la préférence dans les différentes propositions qui étaient faites, être accueilli par une femme, être encaissé par une femme, etc. Donc c'est encore en cours d'analyse, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus, mais ça semble dire que les représentations des recruteurs sont erronées, c'est-à-dire qu'a priori, ils s'appuient sur la satisfaction du client roi, et le client roi n'a pas d'éléments de satisfaction liés à cette apparence physique, et donc à certains autres éléments du sexe, de l'âge, de la race, etc. Donc voilà, c'est encore à creuser, mais ça fait question. Et peut-être une deuxième chose sur les compétences qui seraient reconnues ou pas, et sur le fait que la mobilisation de ces critères discriminants serait plutôt au moment du recrutement et moins dans la carrière. Pour ce qui concerne les hôtes de caisse et d'accueil, il semble en effet que ces éléments sur les propriétés corporelles des candidats se fait surtout au moment du recrutement, et de façon plus informelle dans le cadre de la carrière, mais ça fait surtout partie des éléments qui sont punis par la loi, c'est-à-dire dans les critères d'évaluation des compétences ou dans les éléments de la formation du salarié. Et donc, du coup, ça reste vraiment de l'ordre de l'informel, de ce qui se dit dans le couloir, de ce qui se dit entre deux portes. Alors là, dans les entretiens semi-directifs qu'on a menés, on a des éléments, mais par contre, dès l'instant où on passe par une méthode plus quantitative ou par de l'observation, on n'y a pas forcément accès. Voilà ce que je peux dire.
Merci pour votre lecture et les questions. Donc, c'est pareil, je ne vais pas répondre à tout, je serai encore trop long. Sur la question de l'intrication, peut-être pour prendre le premier bloc de questions, et sur la justification d'une action de recrutement par le tiers, et par le client tiers, moi il me semble que cette question, on peut y répondre que en prenant en compte de façon générale la multiplicité des catégories surveillées, notamment des populations surveillées, et en fait c'est un critère qui tient pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ce critère de justification vaut pour le discours a priori qui renforcera les représentations stéréotypées des rapports de race chez tout le monde, et qu'en réalité c'est une manière de cacher beaucoup d'autres enjeux. Alors je sais pas si peut-être que je réponds pas tout à fait à la question, mais de cacher beaucoup d'autres enjeux de surveillance, parce que les populations surveillées sont pas en fait du tout le seul enjeu de la surveillance dans la sécurité privée. Alors là je parle des commerces, hein, des grandes surfaces. C'est en réalité la population surveillée, c'est aussi la population des travailleurs et des salariés en interne, qui est en fait l'enjeu le plus important en termes de risque pour le site, pour le client. Et on peut dire aussi que la population des consommateurs dits normaux, enfin dits sans danger, elle aussi, il y a un enjeu de cette présence, et probablement notamment, mais ça j'avoue que j'ai pas beaucoup creusé, il faudrait que je réfléchisse un peu plus, mais je pense qu'on est dans le prolongement, on est aussi dans un univers de renforcement postcolonial de l'action de sécurité engagée par quelqu'un de racisé qui est à la fois d'un côté renvoie à ce bas de la hiérarchie sécuritaire qui doit être naturellement entre guillemets occupé par les populations les plus discriminées habituellement dont on a ce stéréotype là d'un côté et d'autre part on pourrait dire alors ça je vais avec prudence mais qu'il y a aussi quand même quelque part un engagement du client une mise au travail du client là encore c'est un début de réflexion sur le fait que l'agent racisé a peut-être moins la confiance de la population blanche tout ça avec des stéréotypes bien sûr et que d'une certaine manière le surveillant est lui-même racisé, et lui-même surveillé, pardon, par le public dont on est censé assurer la protection, pour dire ça très rapidement. Et en fait, donc, tous ces enjeux se diluent. Et la question de la race et la question de justification par le client est là, mais sans doute aussi qu'elle appartient qu'à des sous-univers très spécifiques. Alors, par exemple, certains sites de luxe où on demandera des blancs parce qu'il y a des blancs très riches qui sont là. Bon. Et à l'inverse, en fait, dans la réalité et dans l'expérience, peut-être que ça me permet de répondre aussi à une deuxième partie de la question, et j'essaierai de ne pas être trop long. On a aussi beaucoup de passerelles, et en réalité, quelqu'un qui s'ancre dans le métier et qui a une reconnaissance professionnelle peut aussi facilement disposer de rapports directs avec des clients dont on imaginerait qu'ils commandent des individus non racisés ou avec une demande particulière. Et là, ça permet aussi de se dire qu'il y a vraiment ce double marché du travail dans la sécurité privée. Cette frange qui ne tient pas très longtemps, probablement supporte extrêmement mal la réalité raciste de beaucoup d'interactions directes ou simplement indirectes, visuelles, ou dans l'indifférence, etc., des autres, et que quelqu'un qui s'ancre ensuite va avoir de la reconnaissance professionnelle, mais au prix de responsabilités très fortes et peu reconnues, ou alors être entrepreneur. Et là encore, on a le basculement dans une autre forme d'incertitude. Donc on est dans quelque chose qui fait que la reconnaissance, on va dire, du travail ne passe pas forcément par la reconnaissance de l'emploi, ou alors que par l'emploi, mais pas beaucoup, ou alors par d'autres types de risques et peu protecteurs. Donc on est toujours dans des choses qui à chaque fois se morcellent, en fait. Ça rend les choses assez difficiles. Je sais pas, je vais pas être trop long, je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci.
Merci pour ces commentaires et remarques et questions. Je vais aborder la troisième remarque sur qui candidate ou pas. Je ne sais pas si je vais y répondre, mais j'ai apporté d'autres éléments tirés de mes matériaux. Dans le cadre de ma recherche, j'ai travaillé sur justement cette question de l'altérité, de la Filipina, comme elle est appelée, cette travailleuse domestique philippine. Et au-delà du travail de l'ethnographie des institutions et des pratiques de recrutement, je me suis aussi intéressé aux formes de réappropriation, de résistance et de subversion de ces identités assignées. Et à travers une série d'entretiens semi-directifs, j'ai dessiné différents idéotypes de carrière migratoire dans lesquels on peut observer différents rapports à cette altérité, à ces normes assignées, et notamment des cas où il y a des formes d'hybridation très fortes ou de subversion. Il y a des formes d'instrumentalisation de ce métier, car l'avantage, entre guillemets, de ces métiers, c'est de pouvoir être déployé très rapidement et d'avoir un visa pour quitter le pays. Donc des femmes, bien souvent, aussi des hommes qui mobilisent, qui passent par ces circuits-là pour arriver à d'autres métiers. Donc des femmes souvent très qualifiées, enseignantes, des fois managers aussi d'entreprises, qui ne voient plus de débouchés, qui sont dans des stagnations salariales aussi, font passent par des phases de déqualification, entre guillemets, comme elles le perçoivent, en partant comme travailleuse domestique à l'étranger, en Europe, pour avoir la possibilité de postuler, dans un premier temps, pour un temps partiel qui est en lien avec leur qualification d'origine, puis, dans un second temps, poursuivre leur carrière d'informaticienne, de prof, d'infirmière, Donc il y a ce rapport, il y a différents usages de ces normes et de ce métier qui se dessinent. Donc c'est plus pour faire un décentrement du point de vue et montrer comment il y a des carrières migratoires différentes selon les profils sociologiques. On voit aussi c'est des rapports fortement classisés selon des femmes qui viennent de Manille, des classes moyennes, classes supérieures, qui n'ont pas les mêmes carrières migratoires que des femmes des provinces plus pauvres qui vont partir sur 15, 20 ans et les autres qui ont des carrières migratoires dans l'économie domestique plus courte. Donc tout ça pour vous dire que, et c'est de répondre à votre question, qu'il y a différents trajectoires biographiques et trajectoires migratoires selon les profils des actrices. Et par rapport à l'évolution de ce métier, c'est pas évident de répondre, mais un élément de réponse que je voulais mettre en avant, c'est cette question de l'internationalisation du marché, de l'économie domestique, qui s'est manifestée par... l'essor de nouvelles industries de l'immigration, entre guillemets, les Philippines étant une des premières industries de l'immigration, avec tout un dispositif, comme on l'a évoqué, qui recrute, qui forme et qui exporte, entre guillemets, de la main-d'œuvre, qui n'est pas limité aux travailleurs domestiques, mais aussi aux marins, aux informaticiens, informaticiennes et d'autres corps de métier. Et donc, une des transformations de cette économie, c'est cette internationalisation qui amène les pays aussi à renforcer et à revaloriser les qualités et les compétences supposées et stéréotypées de leur main-d'œuvre dans une logique concurrentielle par rapport justement, on voit bien avec l'Indonésie et les Philippines. Voilà, alors les Philippines, c'est quand même, comme le disait très bien Lane Moser dans ses articles, elle montre bien comment ces femmes se considèrent comme les Mercedes-Benz des travailleuses domestiques. Et il y a des formes de distinction sociale très fortes entre ces femmes, finalement, en disant voilà, moi je suis. Souvent, les femmes benglandies sont vraiment ostracisées et disqualifiées dans leur métier, contrairement aux Philippines, qui vont, elles, se mettre en avant, valoriser leur profil. Donc, cette internationalisation du travail, constitue une grande transformation, participe reconfigure un peu les formes de distinction qui se jouent. Pardon.
Oui, merci beaucoup aussi de ma part pour les questions. Je vais essayer encore peut-être de répondre par rapport à la question des compétences et comment elles évoluent dans le temps. Ou plutôt cette question de la carrière, en fait. Est-ce que ça reste comme ça? Donc, cette mise en avant de certains critères au détriment des compétences professionnelles. En fait, ce qu'on voit dans nos recherches, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment cette idée de carrière, ou plutôt que la carrière est... par définition limitée dans le temps. Donc d'une part par l'âge, comme vous l'avez dit, donc on ne peut pas migrer en tant que travailleuse domestique quand on a passé 40 ans, ou alors il faut falsifier les papiers, mais enfin ça veut dire on a vraiment là un segment qui cherche à recruter justement des femmes jeunes et peu expérimentées, et dans un deuxième temps aussi par les contrats en fait de travail, qui sont des contrats, alors ça n'a pas eu le temps de le dire, mais exclusivement temporaires, généralement des contrats de 2 ans, qui peuvent parfois être renouvelés. Mais ce qu'il faut peut-être dire là, c'est alors les employeurs très souvent sont pas du tout intéressés à réemployer une personne qui a déjà été dans le pays, donc qui aurait justement des compétences et de l'expérience. Donc ce qu'ils appellent des ex-Malaysian, pour dire voilà, des filles qui ont déjà été là et qui ont déjà travaillé, très souvent sont justement pas facilement employées, parce qu'on considère qu'elles sont trop autonomes, qu'elles ont peut-être des réseaux dans le pays, qu'elles auront plus de possibilités de résister. Et pour dire, c'est pas juste au niveau des discours des employeurs, il y a des pays comme le Taïwan, par exemple, qui... à cause de ça, rendent impossible en fait de revenir pour un deuxième terme d'emploi. Donc on peut seulement venir une fois, 2-3 ans, et après c'est fini, on peut plus jamais revenir. Et les femmes que moi j'ai suivies, donc à partir de ce village sur Java, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des carrières mais transnationales. Donc elles commencent peut-être par aller en Malaisie 2 ans, elles reviennent, ensuite elles vont en Arabie Saoudite 2 ans, elles reviennent, etc. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, elles recommencent quelque part à zéro, parce qu'elles ont justement pas des réseaux. Donc ça montre aussi que justement ces luttes plus collectives sont très compliqué dans ces contextes-là. Voilà.
Du coup, on va prendre juste une vague de questions. Voilà, des questions courtes pour des réponses courtes.
J'avais trois questions courtes. Alors, vous pouvez m'arrêter avant. Alors, une question, enfin, c'est sur l'interprétation par rapport aux recruteurs dont vous avez. Alors, c'était par rapport à l'exemple d'Oumaïa Idrinès, sur qui nous disait finalement les recruteurs ont des représentations fausses par rapport, enfin, de leurs clients. Mais est-ce que c'est un problème de représentation fausse ou est-ce que c'est en fait un problème d'objectif de segmentation et d'hierarchisation de la main-d'œuvre qui est recouverte par les clients, voilà. Mais pour moi, c'est pas forcément. Enfin voilà. Donc c'est, je me disais, comment on interprète. Moi, j'aurais plutôt interprété en termes de voilà, objectif d'abord de segmentation pour hiérarchiser quoi. Hein. Une deuxième question aussi d'interprétation, alors là c'est par rapport à ce que nous a dit Sébastien Bouvet, c'est sur la question des agents de sécurité où les agents vont être surveillés par les clients parce qu'on ne fait pas confiance, etc. Mais est-ce qu'aussi on pourrait pas interpréter en termes de mais les clients qui sont aussi, même s'ils sont blancs, on est racialisés, parce que la race, c'est dans l'interaction, voilà, entre le taux de mélanine, l'apparence et phénotype, donc c'est pour tout le monde. Et donc, le client blanc, si je vole et je me fais prendre par un agent de sécurité qui est donc, par exemple, black, donc à qui on assigne dans ces rapports sociaux racialisés, une place inférieure à moi qui suis blanc. Alors la super honte, c'est pas possible. Donc voilà. Enfin, il y a peut-être ça aussi à prendre en compte et pas simplement la surveillance. Enfin, c'est une question que je me posais de cette façon-là. Et la troisième question que j'avais, alors j'ai trouvé très très intéressant cette question de la mondialisation, de l'internationalisation du recrutement. Et du coup, je me dis que ça pose vraiment des questions sur notre analyse. En termes de la relation de service, ce n'est pas délocalisable. Parce qu'en en fait, on délocalise la main-d'œuvre, on transporte de la main-d'œuvre. Et donc, c'est d'autres formes de délocalisation sur place. Enfin, je me dis, il y a quelque chose à reprendre de ce côté-là. Voilà. Excusez-moi.
D'autres questions, réactions ?
Moi, je voudrais juste, en vous écoutant, vous n'avez pas du tout parlé des compétences linguistiques, parce que effectivement, c'est très important pour les Philippines, mais je pense aussi que dans les agents administratifs, voilà, bon. Donc, ça joue aussi dans les critères. Il n'y a pas que l'apparence physique, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont des critères importants de différenciation, et voilà.
Bonjour. Ma question est plutôt pour vous tous, toutes, par rapport à la méthodologie. Comment pensez-vous que les sexes, les genres, la classe, la race, l'âge, l'ethnie des chercheurs ont pu ou non influencer vos respectives recherches? Et dans les cas de recherche quantitative, comment avez-vous fait pour prendre en considération race, genre, classe, comment ces critères-là ont été mis en place pour prendre l'ensemble de ces rapports sociaux?
Merci. Dernière question? C'est bon?
Pas mal.
Après, on va manger.
La parole est à vous.
Bon. Alors, pour la question de l'interprétation des techniques de neutralisation des recruteurs, on va dire, j'ai utilisé un concept qui vient de la criminologie, les techniques de neutralisation, pour essayer dans les discours de faire ressortir les arguments de justification, de rationalisation qui sont utilisés pour justifier le passage par le client. Et en fait, quand on interroge les responsables immédiatement supérieurs aux salariés qui est recruté, le discours qui renvoie systématiquement la discrimination au client est systématique. Il y a vraiment, je pense que ça fait partie des techniques de neutralisation qui sont utilisées pour se dédouaner de cette discrimination en disant « c'est pas moi, c'est le client, et le client c'est mon gagne-pain, donc je fais ce que le client veut ». Mais effectivement, auprès des responsables de la politique RH de ces entreprises ou dans les collectivités territoriales, le discours est moins ferme, c'est-à-dire qu'on est moins sur le client. on justifie toujours en utilisant le client pour se dédouaner, mais on admet aussi très vite que ça fait partie de la culture d'entreprise, des objectifs de l'entreprise. Et il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2008, la loi qui s'appelle, enfin très rapidement, elle est dite loi EPE, c'est-à-dire la loi qui permet de faire une discrimination si on estime que c'est une exigence essentielle et déterminante pour le recrutement. Et bien qu'elle ne soit pas du tout passée pour ce qui concerne la grande distribution comme étant une manière de discriminer légale, eh ben cette loi est systématiquement mise en avant en disant c'est une brèche, ça nous permet de justifier notre recrutement, etc. Donc il y a vraiment, on est entre les deux interprétations. Voilà. Et la compétence linguistique, je botte en touche parce que j'ai pas les compétences, justement. Et j'ai lu des travaux sur la téléphonie. Ce qui m'avait quand même choqué, c'est qu'ils recrutaient leur opérateur téléphonique et qu'ils privilégiaient quand même les personnes qui étaient grands, musclés, minces, beaux, souriants, parce qu'il était admis qu'en ayant un beau physique, on était plus souriant et que ça s'entendait dans la voix. C'est la seule chose qui m'était restée et je m'étais dit, waouh, on parle quand même d'apparence physique pour qu'il n'y ait aucun contact avec le client visuel. Mais j'ai pas les compétences et y a un tel chantier sur l'apparence physique que je me suis au moins spécialisée là-dessus en laissant d'autres collègues travailler là-dessus. Et juste pour terminer sur cette question piège, qui est pas piège mais qui est c'est la question, dire que j'ai fait mon égo-histoire. J'ai travaillé vraiment la question de pourquoi j'en suis venue à travailler sur l'apparence physique, en étant une femme, en étant d'origine maghrébine, etc., etc. Donc j'ai travaillé sur moi. J'ai été chercher du côté de la sociologie de l'immigration, de la sociologie de l'éducation, de la formation, du corps, etc. Donc ça m'a déjà aussi permis d'objectiver ma position de chercheuse par rapport aux personnes que j'interroge et à ce que je vais chercher. C'est très récent, 2016, hein, donc j'ai mis du temps à y passer. Par contre, sur la technique, sur la méthodologie, on va dire, sur le terrain, pour en attendant de faire cette égo-histoire qui m'a quand même permis d'objectiver certaines choses, j'ai toujours travaillé à partir de la méthode inductive et vraiment l'emergent fit, en essayant de faire sortir du terrain, des données recueillies, de l'empirisme, les catégories, la théorie que je vais mobiliser, de ne pas la plaquer d'office. C'est-à-dire qu'en fait, la question des rapports racisés, elle vient seulement d'arriver parce que dans les collectivités territoriales, la question s'est posée, et parce que là, je travaille une nouvelle enquête auprès des intermédiaires de l'emploi dans une ville reléguée à Roubaix, et donc évidemment dans le public qui est pris en charge par les missions locales de l'emploi, j'ai un public d'origine maghrébine, d'Afrique noire, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des catégories qui m'amènent à les puiser, on va dire, dans la théorie des choses. Mais sinon, en ayant travaillé 15 ans dans la grande distribution sportive, je me suis focalisée sur les rapports sociaux de sexe et de classe, parce que la question de la race ne s'est jamais posée, puisque il y avait une auto-exclusion du marché. Ces personnes-là ne candidatent pas, par exemple, dans les entreprises que j'ai enquêtées. Voilà. Je ne sais pas si...
Donc, merci pour vos questions. Je vais essayer d'être rapide. Pour la question des agents surveillés par les clients et par leur racisation respective, alors c'est assez compliqué parce que une hypothèse de départ qui a été avancée par Pascal Hugues dans un travail de sociologie, mais qui est tiré du côté un petit peu de la psychanalyse, était le sentiment d'étrangeté chez Freud, et donc l'idée d'un recrutement d'agents, enfin de blacks, puisqu'il parlait des agents africains d'Afrique subsaharienne dans sa thèse, versus les blancs. Bon, donc alors c'est pas la honte, mais c'est la distance, et donc cette distance serait gage de surveillance, de qualité de surveillance, enfin d'efficacité. Bon, c'est quand même très difficile à suivre totalement, même s'il y a quelque chose qui se joue dans les rapports, dans ces rapports-là. Moi, il me semble qu'il y a plutôt quelque chose à tirer du côté d'un côté d'un imaginaire post-colonial, ce que j'essayais un peu de dire tout à l'heure, et de l'autre, donc de la capacité aussi d'évacuer les formes de pression de la part des clients, en particulier blancs, vis-à-vis d'agents racisés de façon générale dans leur métier, dans leur emploi de service, et notamment les agents de sécurité. Puisque, au-delà des risques physiques qu'on aurait en tête, il ressort beaucoup dans les entretiens la question du petit mépris, de la petite brutalité, pour prendre l'expression de Pascal Barbier, ou des choses comme ça, de l'indifférence, de l'impolitesse, et qui en fait traduisent aussi sans doute un rapport racisé. Après, la question de l'interprétation de la honte, j'avoue que je ne sais pas trop. Il faudrait enquêter. Alors pour le coup, il faudrait, c'est l'incomplétude de l'enquête. Il faudra enquêter avec les auprès des clients. Voilà. À ce niveau-là, j'ai pas vraiment dans mon enquête. Il y a pas de. J'ai pas interrogé les consommateurs. Je peux déduire des choses, mais j'ai pas interrogé les consommateurs. Bon, voilà. Je sais pas. Je réponds peut-être pas bien, mais c'est pas non plus. Je peux pas faire vraiment mieux, je crois. La question des compétences linguistiques. Alors ça, je suis. Vous avez pour la sécurité privée, c'est aussi quelque chose de très important. Moi, dans mon travail, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait tout un tas de capitaux, ce que j'appelais des capitaux détournés, chez les agents de sécurité, notamment en fonction de leurs compétences linguistiques, de leurs diplômes, notamment l'ancienne expérience professionnelle, et qu'il y avait tout un jeu de féminisation, d'invisibilisation, en fait, de tout un tas de compétences. Les compétences linguistiques font partie des choses dont on ne va jamais parler en entretien. Enfin, c'est très rare, peut-être sur certains sous-secteurs de luxe, sur certains postes, on va pouvoir demander à parler l'anglais, mais en fait, dans l'ensemble, on n'en parle pas. Mais en réalité, la répartition, la gestion de la main-d'œuvre plus fine, elle fait que certains agents vont être sur des sites où on sait qu'il y aura population étrangère, peut-être de touristes plus importants. Et puis, il se trouve que l'agent, en fait, il parlera trois langues parce qu'il a, pour des raisons biographiques. Et donc, en fait, il va être compétent à faire beaucoup plus de choses que simplement la surveillance. Et ça, c'est des dimensions complètement cachées. Il y a tout un travail, tout un jeu de détournement. Donc, j'ai pas fait quelque chose de spécifique sur les compétences linguistiques, mais ça fait partie, disons, des capitaux culturels qu'on oublie, mais qui existent. Voilà. Dans la réalité de l'emploi. Et pour la méthodologie, hyper rapide. Moi, en fait, j'ai fait mon travail au départ n'était pas sur les. C'est peut-être pour ça que je suis aussi un petit peu stressé, c'est que au départ, je travaille pas sur les questions d'intersectionnalité, de rapports sociaux. J'ai pas parlé de la construction du marché, des trajectoires plus généralement des agents. Donc, j'ai vraiment des approches biographiques. Évidemment, il y a pas de la neutralité n'existe pas. Donc, ce qui était pour moi le plus important dans ces interactions-là était de faire parler les gens de leur parcours à partir d'anecdotes de travail, de choses très concrètes. Après, je peux bien sentir que si moi, j'aborde pas, par exemple, les questions de racisme, elles viennent pas aussi facilement que si je finis par en parler. Il y a tout un jeu de... Mais c'est subtil. J'avoue que j'ai pas approfondi cette question. Je vais pas vous dire le contraire. Mais j'ai pu le sentir, en tout cas. Voilà, qu'en tant que blanc, il faut parfois apporter des choses. Bon, côté quanti, sur les CV, il y a le sexe. Sur les CV, il y a parfois des photos. Alors, dans ma base de données, j'ai indiqué un phénotype. J'en ai pas fait grand-chose parce qu'en fait, c'est très fragile. Dès qu'on n'a pas de photos, c'est compliqué. Mais là encore, il y aura des choses à creuser. Là, je suis resté sur le critère qui était objectivable. Voilà. Merci. Désolé pour le terme.
Merci pour les questions. Je vais commencer par la question de la délocalisation. En fait, si j'ai bien saisi Arlie Hochschild, c'est justement parce que on peut pas délocaliser les personnes âgées ou les enfants dont vont s'occuper en fait ces travailleuses domestiques dont on a parlé, qu'elles doivent bouger. Donc elles sont mobilisées. Peut-être ce que je peux encore ajouter à ce niveau-là, on n'a pas tellement pu en parler, mais elles sont mobilisées et à la fois immobilisées après à différents moments. Donc autant en Indonésie, en fait, c'est des véritables camps d'entraînement où elles sont confinées pendant des mois, sans possibilité de sortir. Et après aussi, donc, avec cette assignation à résidence chez les employeurs qui dure donc 2 ans. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément contradiction, mais que c'est justement une conséquence, en fait. Mais peut-être que j'ai mal saisi votre question.
Moi, il va y avoir de l'emploi localement puisqu'on ne peut pas un travail qui ne peut pas se délocaliser. Sauf que si on importe de la main d'œuvre moins chère d'ailleurs, ça, c'est pareil en agriculture. Les terres, elles ne peuvent pas être délocalisées, mais la main d'œuvre on peut la faire circuler autrement. Et donc, ça va provoquer, Là, c'est massif.
D'accord. Ouais. Merci.
Rapidement sur les compétences linguistiques aussi, cette question de l'altérisation de ces compétences, où justement les Philippines sont perçues comme étant anglaises du fait qu'il y a une histoire coloniale américaine sur dans l'archipel. C'est intéressant de voir que pendant l'enquête, justement, cette question du langage s'est posée, car pas toutes les femmes candidates à l'émigration étaient bilingues. Bien sûr, il y avait cette maîtrise de l'anglais était nivelée par des rapports de classe, ce qui a constitué des questions méthodologiques très fortes. Ça me permet de glisser sur votre questions, et notamment les distances sociales qui existaient entre moi et les personnes que j'ai pu rencontrer, surtout ces femmes candidates à l'immigration, et donc les rapports d'enquête qui étaient structurés par des rapports de classe, bien sûr, de genre et de race. Et du coup, bien sûr, ce travail est dans tant les études féministes que l'anthropologie, par différentes façons, ont mis en avant la nécessité de mener en parallèle des terrains un travail de réflexivité sur la position d'ethnographe et les rapports de pouvoir qui se jouaient sur cette pratique. Et ce qui m'a, un exemple que je voulais citer, c'était la question plutôt, j'ai évoqué un peu en conclusion, la question des privilèges. Et notamment en échangeant avec mes collègues philippines, ce qui était intéressant, c'est de voir, je leur disais, la difficulté que c'est au niveau de communiquer avec certaines de ces femmes qui ne sont pas bilingues. C'est clair qu'il y avait la possibilité de travailler avec et d'engager d'autres personnes pour faire la traduction, ce qui était une des options prises, mais pas tout le temps. En général, c'était quand même l'anglais. Mais ce qu'elles m'ont dit, alors certes, c'est peut-être une difficulté, mais ce que tu as, le privilège que tu as, c'est d'accéder à ces agences de recrutement, à l'État, au poste haut placé que nous, en tant que chercheuses philippines, nous ne pouvons pas avoir accès. Donc là, il y avait toute une question sur, justement, après, ce privilège lié à ma posture de chercheur, et tout aussi une politique de restitution sur la mise en commun des matériaux. Les accès que j'avais à ces matériaux étaient, je suis en train d'une politique de partage, de mise à disposition aussi de, qui se répercute aussi dans quel mode de publication on veut avoir, où est-ce qu'on publie dans les revues. C'est un grand débat après politique qu'il y a sur on publie dans les revues européennes, dans des revues aux Philippines, avec qui on publie.